figure au cadre du deuxième. Le deuxième arrondissement est sans doute, parmi d'autres, l'un des arrondissements féminins de notre capitale, puisque plus de la moitié des 115 000 salariés qui font bourse sont des femmes. Ces femmes travaillent dans de très grandes entreprises du secteur bancaire ou d'assurance, comme le Crédit Lyonnais, Paribas, la Banque de l'Union Européenne, pour prendre les plus connus, ou encore travaillent dans de petites entreprises du secteur de l'habillement et de la confection, concentrées dans le quartier du Sentier, où peinent plusieurs milliers de femmes victimes de conditions d'exploitation féroces que nous ne dénonçons sans doute pas encore assez dans le deuxième arrondissement.
Tu peux m'en rendre plus fort, s'il te plaît.
Ah ben, c'est le micro qui est défaillant. Hein. Bon. L'activité de la CGT en direction des travailleuses a donc été, pour notre union locale, un souci permanent. Depuis le début de l'existence de notre union locale, il y a 5 ans, une commission féminine s'était chargée d'appréhender les problèmes des femmes qui travaillent et d'impulser l'activité spécifique dans les entreprises, sous la direction du camarade Mandulo. Cette commission a toujours été de celle qui fonctionnait le mieux parmi les autres commissions du local. Le travail réalisé depuis plusieurs années était bénéfique. Il ne nous échappe pas qu'il reste encore du chemin à parcourir en milieu local, comme dans les entreprises. Et en premier lieu, et le paradoxe n'est qu'apparent, dans les entreprises où les travailleurs sont en majorité. Nous heurtons en effet à au moins deux obstacles principaux. Premièrement, la difficulté de faire comprendre, d'asseoir, de développer une activité syndicale spécifique liée à l'activité générale, mais également activité originale en direction des catégories, et ceci vaut aussi bien pour les femmes que pour les UTC de l'ERPAT. Deuxièmement, l'importance même du nombre de travailleurs et de travailleuses. Travailleuse masque, curieusement, la nécessité d'une telle activité spécifique. Puisque notre entreprise est composée pour la majorité de femmes, notre action générale tient forcément compte de cette réalité, nous répondons souvent, et l'on ajoute en conséquence une activité particulière s'adressant aux femmes, qui sont la majorité de l'entreprise, ne s'impose pas. De tels propos viennent très souvent, et un débat s'est engagé sur ce thème, par exemple, dans la préparation du récent congrès des employés régionaux. Partant de là, nous ne devons pas nous étonner si les responsables de femmes, comme l'on dit, sont encore en petit nombre et si les commissions féminines restent, elles aussi, un nombre limité dans les entreprises, celles qui existent ayant souvent une activité ponctuelle. Notre responsabilité est engagée, nous le savons, et comme nous tiendrons notre 6e congrès à l'automne, nous pensons qu'une nouvelle fois, il nous faudra argumenter sur la nécessité du travail spécifique et de la mise en place dans chaque direction syndicale d'une responsable désignée pour penser et pour animer l'activité syndicale particulière aux femmes. Sans de telles dispositions, pensons-nous en effet, les préoccupations particulières des femmes travailleuses et de l'ensemble de la revendication spécifique ouvrent difficilement leur place dans notre action syndicale, y compris dans la bataille pour le recrutement, la bataille pour les 3 millions d'adhérents à la CGT. Ce ne sont pourtant pas, dans le deuxième, et à Paris bien sûr, les militants qui nous font défaut. Encore qu'il nous faut garder de tout triomphalisme et bien mesurer les progrès qui restent à accomplir, nous pouvons cependant noter comme positif que 20 organisations de la CGT résidant sur 15 000 salariés, sur les 45 entreprises les plus importantes du deuxième où nous sommes organisés, et pour secrétaire général du camarade femme. Ainsi, pour ne citer que les entreprises les plus importantes, nos organisations du Crédit Lyonnais 2e de 1300 salariés, celles des agences du même Crédit Lyonnais 3800 salariés, celles de la Banque de l'Union Européenne 1500 salariés, celles des NFPP 1200 salariés, celles de la Pérée Générale 1000 salariés, celles des AVR 700 salariés en 2e et 5000 à Paris, celles de la Foncière 600 salariés sont dirigées par des femmes. Elles savent pleinement faire face à leurs responsabilités et elles ont acquis une expérience irremplaçable, au même titre que les camarades hommes avec qui elles militent quotidiennement. L'on conviendra alors qu'il est tout de même difficile de prétendre que la CGT vit sous le règne de la misogynie, comme tentent à le faire croire parfois certaines militantes des groupes femmes. Ce qui nous amène au deuxième point de notre intervention. On a souvent dit cet an dernier que les groupes femmes avaient changé sous la pression de nos idées et de notre action, et que désormais, ils se comportaient de façon plus responsable. On cite à ce propos leur attitude lors de la manifestation du 1er mai cette année, et il a même été dit que le tract qui était distribué par eux ce jour-là aurait pu être signé par la CGT. Nous ne partageons pas pleinement cette analyse. Le débat mené par la CGT sur l'activité quotidienne, sur les problèmes des femmes travailleuses, ont contribué et contribuent toujours à nourrir la réflexion du nombre de femmes adhérentes à ces groupes. Sans doute, ces mêmes groupes ont-ils un comportement moins ouvertement provocateur. Mais pouvaient-ils, sous peine de perdre définitivement toute solidarité, continuer à se conduire de façon aussi caricaturale et provocatrice que lors du 1er mai de l'année dernière? Au demeurant, et sur le fond, quel est l'argument essentiel de leur crainte du 1er mai cette année? Il appelle les femmes, je cite le texte, à lutter contre une société de soumission et d'oppression dominée par les hommes. Est-ce là une orientation à laquelle nous pouvons souscrire? L'argumentation sur le fond n'a pas changé, et l'on nous suggère une nouvelle fois de substituer la lutte des sexes à la lutte de classe. Pour nous, la société actuelle est dominée par le profit, et c'est d'abord l'exploitation de la force de travail des femmes et des hommes qui la caractérise. La place inférieure qui est encore aujourd'hui réservée aux femmes a pour cause principale cette même exploitation capitaliste. Le fait que la firme Weckermann, par exemple, soit dominée par les femmes, par ailleurs, membre de l'organisme de la vie de la n'apporte aux vertus que libérer les femmes travailleuses, et c'est un problème.
Tu réponds, moi je réponds.
Toute prise de position, toute orientation désignée aux femmes ou d'autres adversaires de patronat du gouvernement actuel sont, à notre avis, nécessairement suspectes. Françoise Giroud, quand elle était déléguée à la condition féminine, a fait remarquables efforts pour convaincre les femmes qu'elles étaient avant tout victimes de l'image millénaire de l'infériorité féminine, que tous les hommes, quelle que soit leur place sociale, du PDG à l'OS, véhiculent consciemment ou non. L'on voit très bien le parti que peut tirer la bourgeoisie de telles argumentations. Le réel problème des mentalités est alors utilisé pour masquer la réalité sociale, pour diviser, en opposant les hommes aux femmes, pour dévoyer les aspirations et les luttes des femmes travailleuses. Que des militants de la lutte communiste qui animent les groupes femmes puissent se retrouver sur des positions semblables ne surprendra personne à la CGT. Mais il est hors de question, pensons-nous, de nous associer à une telle démarche. Ceci étant dit, il est bien évident que les groupes femmes existent, même s'il ne faut pas surestimer leur force, et ne sont pas composés que de gauchistes avérés. En leur sein se trouvent également des militantes adhérentes à la CFDT, voire à la CGT, qui sont convaincues d'agir avec pour une réelle amélioration de la condition féminine. Les problèmes qu'elles soulèvent ne sont pas nécessairement dénués d'intérêt et répondent à des aspirations légitimes de femmes travailleuses dont nous devons tenir compte. Devant cette situation, l'important, à notre avis, est donc de donner une nouvelle ampleur à notre activité en direction des travailleuses et de s'efforcer de faire prévaloir auprès des femmes concernées des solutions concrètes, réalistes, responsables de la CGT, sans se priver de dire publiquement ce que nous pensons de certaines divagations foncièrement féministes, qu'elles viennent des groupes femmes d'ailleurs. L'essentiel étant pour nous de ne rien céder à quoi que ce soit sur le fond des questions posées et de garder nous-mêmes une vision équilibrée des problèmes des femmes travailleuses. Et sur ce plan, nous devons dire que notre union locale a reçu différents documents préparatoires à ces assises qui ont conduit ces militants à s'interroger. Une place importante est désormais donnée dans nos écrits, dans nos débats, à ce qu'il est convenu d'appeler le problème des mentalités, ou plus précisément, à différents aspects idéologiques posés par les questions de la condition féminine. Il n'est pas du tout dans notre esprit de nier la vocation de la CGT à traiter de ces questions. Encore moins de ne pas prendre en compte l'évolution positive qui s'opère chez les travailleuses, qui touche à la place des femmes dans la société, à leur rôle social, aux mentalités rétrogrades auxquelles elles se heurtent. Évolution à laquelle la CGT a d'ailleurs elle-même contribué. Or, l'idée de la supériorité masculine, on risque de noyer la question féminine dans le bon sens. Comment ne pas s'interroger sur les conséquences qu'implique de telles prises de position? Faut-il croire ou laisser croire, une fois encore, que la place intériorisée des femmes dans la société ou à l'entreprise a pour origine principale et essentielle des mentalités retardataires véhiculées par les hommes? Il est vrai que ces mentalités existent, qu'elles jouent un rôle négatif, qu'elles freinent la prise de conscience, non seulement chez les hommes, mais aussi chez les femmes elles-mêmes, et qu'elles doivent être dénoncées comme telles. Mais comment oublier que c'est d'abord et avant tout en raison de la place que la société capitaliste réserve aux femmes, que l'idée de l'infériorité féminine et les mentalités qui en découlent s'est développée et demeure. En bref, peser sur les mentalités passe d'abord par une lutte conséquente et consciente contre l'exploitation capitaliste et dans l'immédiat pour les victoires des femmes communes. La démarche inverse, changer les mentalités pour modifier la réalité sociale, ne serait que l'idéalisme. Et nous côtoyons rapidement les positions gauchisantes, ou celles du pouvoir que nous avons stigmatisées précédemment, si nous ne sortions pas rapidement des ambiguïtés dans ce domaine. D'autant qu'il ne peut être question, pensons-nous, de relever au second plan l'ensemble des revendications très concrètes que posent la contraception, la maternité, la garde des enfants, l'emploi, la formation professionnelle féminine, les salaires, les discriminations dont sont victimes les femmes, le temps de travail, la retraite et bien d'autres questions qui demeurent le souci constant et majeur des millions de femmes qui travaillent. Ce sont là les priorités pour lesquelles notre mouvement syndical doit poursuivre la lutte sous peine d'immobilisme, car nos collectifs communs ne peuvent se transformer en clubs de discussion sans payer sur la réalité quotidienne. Ce serait d'autant plus paradoxal d'ailleurs pour la CGT qu'elle a été toujours été à la tête de la lutte pour l'éradication des travailleuses et l'émancipation des femmes, comme le montre le livre de Madeleine Poulain, comme en témoigne chaque mois Antoine. Sans sous-estimer qu'il nous reste à parcourir du chemin, sans négliger tout ce qui change, sans prétendre qu'à la CGT c'était pour le mieux, nous n'avons pas, semble-t-il, à nous sentir coupables, à renier le passé, ou, comme le suggèrent certains, à faire votre autocritique sur les problèmes féminins. Même si des insuffisances demeurent et doivent être corrigées, même si des progrès incontestables restent à accomplir, nous l'avons dit. Aucune autre organisation syndicale n'a autant de femmes adhérentes, ni autant de militants dans ses organisations de direction à tous les niveaux. Aucune autre organisation syndicale ne peut émettre en avant un bilan de lutte et de succès comparable au nôtre en faveur des femmes qui travaillent. Ce n'est pas prouvé dans l'autosatisfaction que de le rappeler parfois.